Les dessous de l'infox. François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale.
Les dessous de l'infox.
Pourquoi les fausses informations prolifèrent-elles autant ? Alors parmi les nombreuses raisons que nous essayons de cerner dans cette émission, l'une d'elles apparaît comme une motivation puissante pour les propagateurs de l'infox. Diffuser des fake news peut rapporter beaucoup d'argent. On en parlera avec Sylvain Louvet, il est grand reporter, réalisateur. Il vient de produire Fake News, la machine Afrique, récemment programmée sur France 2 dans l'émission Complément d'enquête. Non, les AVC ne représentent ni 80% des hospitalisations, ni 90% des décès au CHU de Fan à Dakar. Vérification faite par Valdez Onanina d'Africa Check. Mais tout de suite, les dessous de l'infox, la chronique. Bonsoir Sophie Malibaud.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Alors l'obligation vaccinale pour les professions de santé et de service à la personne est entrée en vigueur cette semaine en France. Nous voyons avec vous comment les infox, la mésinformation sur les vaccins contribue à alimenter ce refus de la vaccination. C'est un courant minoritaire mais qui est de plus en plus radical, n'est-ce pas ?
Oui, alors on voit circuler sur les réseaux des photos, des vidéos de gens qui jettent un papier dans un brasier dont on nous dit que ce sont des soignants qui brûlent leur diplôme parce que sans vaccin, depuis ce mercredi 15 septembre, ils ne sont plus autorisés à exercer. Sur Twitter, Facebook, Instagram, on parle d'émission, suspension et on invoque la liberté vaccinale. Dans plusieurs villes de France, on assiste à des sit-ins devant l'hôpital ou l'autorité régionale de santé, des manifestations contre ce qui est présenté comme, je cite, une dictature sanitaire. Au moment où les hôpitaux sont encore sous tension, on compterait plusieurs milliers de démissions et de suspensions de personnel.
Et on se demande comment on en est arrivé là. Quelles sont les raisons mises en avant par ces soignants qui refusent le vaccin ?
Alors, il y a chez certains la peur, en tout cas, la peur de la vaccination contre le Covid-19, des craintes nourries par la mésinformation sur les effets supposés des vaccins. De nombreuses publications virales citent les données américaines du VAERS, le système de déclaration des effets indésirables, pour en arriver à des conclusions totalement infondées. Les vaccins seraient responsables de la mort de près de 14 000 personnes, rien qu'aux États-Unis. Ce qui est absolument faux, les effets secondaires existent, mais ils sont largement amplifiés sur Internet.
Cette base de données est publique, hein. Comment peut-on faire mentir les chiffres ?
Alors en fait, le système de déclaration du VAERS, hein, ça s'écrit V-A-E-R-S. Le VAERS, c'est tellement ouvert que c'est invérifiable. Les gens peuvent déclarer ce qu'ils veulent et d'ailleurs, la base de données ne prétend pas fournir l'explication des effets dénoncés. Elle comptabilise les décès de gens dont on ne sait pas ce qui a provoqué la mort. Le fait est que les cas de comorbidité sont surreprésentés chez les gens vaccinés, puisque partout, il a été décidé de vacciner les plus fragiles en priorité. Donc, plus le nombre de vaccinés augmente, plus le nombre de morts après le vaccin augmente lui aussi, c'est mathématique, qu'il s'agisse de populations âgées ou malades. Il n'y a là aucun lien de cause à effet, comme tente de le faire croire un certain nombre de conspirationnistes patentés. Le CDC, le Centre de prévention et de contrôle des maladies, publie d'ailleurs une mise en garde quant à l'interprétation de ces données et affirme clairement que tout lien de causalité entre les événements déclarés et la vaccination reste à établir.
Et qui fait circuler ce type d'infox alors ?
Alors, c'est le type de manipulation des chiffres que l'on rencontre sur les sites anti-vax, bien sûr, mais pas seulement. Il y a aussi des sites internet créés spécifiquement pour faire du clic avec des infox aussi choquantes qu'invérifiées. On citera l'exemple d'un site qui s'appelle France Média Numérique, évidemment à ne pas confondre avec France Média Mangue. Donc France Média Numérique qui diffuse les infox à la chaîne, entrecoupées d'annonces publicitaires. L'objectif est d'attiser la peur sur les réseaux, notamment en manipulant les chiffres, pour faire de l'audience et donc de l'argent. C'est ainsi qu'une partie des internautes se trouve prise au piège d'un narratif déconnecté du réel, un récit fictif qui engendre des prises d'opposition radicales.
Les dessous de l'infox.
Merci Sophie Malibaud, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine François.
De plus en plus de sites apparaissent sur le net prêts à raconter des histoires peu crédibles qui attirent pourtant un public nombreux. Et l'on sait désormais que certaines grandes marques peuvent retrouver ou retrouver leur publicité sur des sites dont les informations sont peu fiables, voire carrément mensongères. Alors derrière ces deux phénomènes, il y a une même explication. Les fake news peuvent rapporter beaucoup d'argent à ceux qui les diffusent.
On en parle.
On en parle avec Sylvain Louvet. Il est grand reporter, réalisateur avec Aude Favre de Fake News, la machine Afrique, récemment programmée sur France 2 dans l'émission Complément d'enquête. Bonsoir Sylvain Louvet.
Bonsoir.
Alors, il y a 15 jours dans l'émission, on s'entretenait avec Chine Labbé de NewsGuard. C'est un site qui traque l'Infox et qui vient de sortir une enquête sur l'argent que rapporte la publicité au site de désinformation. Et cela peut concerner, on le sait, des sommes très importantes. Comment vous avez pris conscience de ce phénomène? Est-ce qu'il a été évident à repérer?
En fait, au tout départ, c'est un rapport d'une ONG américaine qui était sortie en 2019 et qui nous a donné l'idée de faire ce film. Dans ce rapport, l'ONG Global Disinformation Index évaluait à 235 millions de dollars le montant des revenus publicitaires générés par les sites de désinformation. Et quand on a découvert avec Aude, avec qui j'ai co-réalisé ce film, on a découvert ce rapport, on s'est dit qu'il y avait matière à enquêter.
Comment vous avez fait concrètement alors pour explorer la toile et repérer toutes ces publicités sur les sites de désinformation ?
Au départ, on s'est vraiment posé la question de savoir quelles étaient les marques qui finançaient le secteur de la désinformation. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une grande expérience citoyenne. On a demandé à 50 citoyens de passer au scanner une vingtaine de sites de désinformation pendant à peu près 7 semaines pour essayer de découvrir justement ces fameuses marques, donc ces grandes marques qui finançaient le secteur de la désinfo. Et donc on a fait ça parce que la publicité sur Internet est ciblée. Donc, c'est-à-dire en fonction de notre âge, de nos centres d'intérêt, la publicité nous suit et donc c'est impossible pour nous, avec nos petits bras, d'identifier tout seul les marques qui effectivement financent le secteur de la désinfo.
Alors, on dit que ces annonceurs ignorent souvent totalement que leur pub est exposée sur ces sites. Est-ce qu'on peut les croire?
Écoutez, pour les gros annonceurs, je pense que c'est très difficile de les croire. Pourquoi ? Parce que un certain nombre de grandes marques dépensent des millions d'euros chaque année dans ce que l'on appelle le brand safety. Donc, c'est la sûreté des marques. En fait, ce sont des marques qui payent des entreprises pour leur garantir qu'elles n'apparaîtront pas sur des sites douteux. Donc, elles savent très bien que ce risque existe. Elles savent qu'elles peuvent se retrouver sur des sites de désinformation. Mais bien souvent, les grandes marques ne demandent pas la liste des sites sur lesquels leur publicité va s'afficher. D'autre part, il y a une ONG américaine qui s'appelle Sleeping Giant, qui existe depuis 5 ans et qui alerte régulièrement les grandes entreprises sur le fait que, qui disent par exemple « Coucou Starbucks, je sais pas si vous êtes au courant, mais vous apparaissez sur un site d'extrême droite qui fait la promotion d'idées anti-vaccins, anti-musulmans, etc. » Et elle les alerte sur les réseaux sociaux et bien souvent, dans de très nombreux cas, les marques ne prennent aucune disposition. Donc, c'est très difficile à croire que les marques peuvent ignorer qu'elles se retrouvent sur ces sites-là.
Un de leurs arguments, c'est aussi que ça représente un pourcentage infime des budgets qu'ils consacrent à la publicité. Comment ces annonceurs réagissent-ils quand ils apprennent donc qu'ils financent de la désinformation ?
Déjà, il y a beaucoup de marques qui n'ont pas souhaité s'exprimer sur ce sujet, parce que nous, pendant à peu près un an, on a sollicité les marques, on les a alertées, on leur a envoyé des mails. Il y en a très peu qui ont accepté de répondre à nos questions. On a eu beaucoup, beaucoup de refus. Et on a un peu l'impression que dans ce secteur, tout le monde se renvoie la balle. Et c'est quand même assez étonnant, c'est-à-dire des marques, des agences de publicité, et même globalement les grandes régies, tout le monde nous a dit, en gros, regardez ailleurs. Le problème, c'est qu'en fait, l'enjeu de ce marché est colossal. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous le disiez au début, dans un rapport qui est paru en août, chaque année, les marques versent 2,6 milliards de dollars à des sites de désinformation, ce qui montre bien qu'il y a un vrai souci très important.
Est-ce qu'on peut penser que certains annonceurs ne sont finalement pas gênés par cette association avec ces sites de désinformation, tout simplement parce que ces sites s'adressent à un public qui les intéresse ?
Oui, c'est vrai. Je pense qu'effectivement, les sites de désinformation sont aujourd'hui devenus une cible intéressante. Pour info, le Gateway Pundit, dont on parle dans le film, est un site américain qui publie régulièrement des fausses informations. Et ce site-là, par exemple, fait 50 millions de visiteurs en moyenne par mois. Donc c'est un site qui aujourd'hui concurrence les grands médias comme Fox News, etc. Donc effectivement, un site comme le Gateway Pundit devient intéressant pour une marque qui souhaite viser un public très large. Et donc oui, probablement que les marques par moment décident de fermer volontairement les yeux parce qu'elles savent qu'en allant afficher leur publicité sur ces sites-là, elles vont toucher un grand public.
Ça ne concerne pas que les marques. Vous avez débusqué des organisations caritatives, par exemple, dont les publicités apparaissent sur des sites qui sont manifestement opposés à leur valeur fondatrice, on va dire.
Oui, c'était assez surprenant même pour nous de découvrir cela. En fait, on s'est rendu compte que parfois, certaines organisations caritatives, certaines ONG allaient financer par le intermédiaire de la publicité des sites qui allaient à l'encontre des causes qu'elles défendaient. Et donc, par exemple, on s'est rendu compte que Secours Islamique, par exemple, une ONG qui milite pour les droits des musulmans, qui essaye d'être très active, d'organiser des aides en Afrique, etc., se retrouve sur le site de Ghetto Aid Pundit, qui lui est un site qui globalement anti-musulman, qui alimente la haine régulièrement envers cette communauté. On s'est retrouvé aussi avec des ONG, par exemple, comme Greenpeace, qui va financer parfois des sites climato-sceptiques. Et ce qui est étonnant, c'est que, évidemment, ce n'est pas de l'argent privé. Parfois, c'est de l'argent, en fait, qui émane de donateurs et qui donne pour une cause en particulier, sauf qu'en réalité, ils se retrouvent à financer le contraire de ce qu'ils voulaient, quoi.
Vous évoquez aussi les plateformes de ce qu'on appelle le crowdfunding, le financement participatif, utilisé parfois sur des projets qui propage manifestement de la désinformation, n'est-ce pas ?
Oui, en fait, aujourd'hui, les plateformes de crowdfunding comme Tipeee, Ulule, deviennent des intermédiaires entre des créateurs de contenu qui propagent des fausses informations et des internautes qui veulent les financer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elles nous répondent souvent en interview, c'est-à-dire qu'elles disent, nous, vous savez, on est juste un outil, on a juste mis à disposition une technologie qui permet aux gens de financer des projets en lesquels ils croient. Et nous, on se décharge, en gros, de toute responsabilité. Tant que les créateurs de contenu n'ont pas été condamnés par la justice, on les laisse sur notre site. Voilà, c'est une conception assez vaste et libérale de la liberté d'expression, sauf que derrière, les dégâts peuvent être considérables, puisque on se rend compte, et nous on s'en rend compte tous les jours avec Aude Favre, avec qui j'ai co-réalisé le film, on a monté une association d'éducation aux médias dans les quartiers, et on se rend compte au quotidien que les enfants, eux, sont victimes de fausses rumeurs, de fausses informations, etc. Donc on a envie de dire que voilà, les plateformes de crowdfunding parfois ne saisissent pas les risques et le danger qu'elles prennent en permettant à des désinformateurs de vivre confortablement de leurs fausses informations.
C'est vrai qu'on entend vos interlocuteurs évoquaient la liberté d'expression comme excuse à toutes les fake news qui sont publiées sur les sites de désinformation. L'argument, manifestement, n'est pas valable pour vous.
Disons qu'au départ, c'est une intention louable de vouloir promouvoir la liberté d'expression. Le problème, c'est que finalement, laisser ses contenus, là on parle en plus pas simplement de laisser ses contenus, de se battre pour des idées, mais là, ces plateformes permettent à des désinformateurs de vivre de leurs mensonges. C'est là toute la nuance, c'est-à-dire qu'en soi, la liberté d'expression, défendre la liberté d'expression, c'est quelque chose de plutôt louable. Le problème, c'est qu'effectivement, on est dans une espèce de, je dirais, d'illusion de la responsabilité. Et par ailleurs, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez répandu sur Internet, c'est-à-dire les plateformes ont tendance à même parfois pousser ce genre de contenu, à les mettre en avant. Et quand un contenu marche, et regardez, il devient de plus en plus attractif. C'est là toute l'ambiguïté de ce secteur-là.
On peut parler donc de responsabilité des plateformes Google, Facebook, par exemple, qui gèrent ces budgets publicitaires.
Oui, on peut parler de responsabilité. Je pense que, par exemple, Google, dans le rapport de l'ONG américaine Global Disinformation Index, Google achemine chaque année, et c'est une évaluation assez basse, 86 millions de dollars vers des sites de désinformation par l'intermédiaire de la publicité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, Google joue les intermédiaires et en même temps gagne de l'argent pour ça. Il y a une forme de responsabilité et nous, dans le sujet, on l'a vu quand on a commencé à gratter et à enquêter, on s'est aperçu que parfois, Google laissait vivre et justement permettait à des sites qui existaient et qui propageaient des fausses informations depuis plus de 15 ans de vivre très confortablement de leurs mensonges. Et donc, par exemple, le site Ghetto Aid Pundit dont on a parlé dans le film génère, selon notre évaluation à nous, près de 2 millions d'euros de recettes publicitaires par an. Donc on parle vraiment de sommes colossales. Et Google a vraiment tout le pouvoir de démonétiser ces sites. Simplement, ils ne le font pas. Et on a eu de la chance, ou en tout cas, on s'envoie un peu des fleurs, mais ils ont démonétisé le Ghetto Aid Pundit suite à la diffusion de notre enquête. Mais il a fallu attendre 15 ans pour ça.
Enfin, depuis, Google a coupé l'accès du site François à son réseau publicitaire et le prive donc d'une partie de ses revenus. Alors, je le cite, hein, en raison de la publicité de violations répétées de ces règles sur la désinformation. On a le sentiment que c'est quand même un mouvement qui va s'affirmer.
Je ne sais pas si ça va s'affirmer. Je pense que là, typiquement, François, est-ce que Google aurait décidé de lui-même de couper François si on n'avait pas fait le film ? Je ne sais pas. Il se trouve que Google a décidé effectivement de démonétiser François quelques temps après notre interview. Donc, c'est compliqué de savoir si c'est un mouvement qui est en train de s'enclencher. Par contre, la vraie question, c'est maintenant, ok, admettons, on démonétise les sites de désinfo. Le problème, c'est que maintenant, le mal, pour moi, le mal est déjà fait. C'est-à-dire que la défiance vis-à-vis des médias traditionnels est déjà entamée. Un certain nombre de Français ne croient plus en nous finalement. Je pense qu'il y a beaucoup de chemin. Le chemin va être très très long avant que effectivement les Français retissent du lien avec les journalistes. Donc même en démonétisant, il y a encore beaucoup de boulot, et notamment en matière d'éducation aux médias.
Sylvain Louvet, grand reporter. Je rappelle que vous venez de réaliser avec Aude Favre Fake News, La Machine Afrique. Ça a été diffusé dans l'émission Complément d'enquête, qu'on peut visionner d'ailleurs encore sur le site de France 2, et dont le lien sera sur la page de notre émission. Bonsoir et merci.
Merci.
Direction Dakar, où nous attend Valdez Onanina d'Africa Check. Bonjour.
Bonjour François.
Content de vous retrouver, Valdez. Vous évoquez avec nous aujourd'hui une statistique erronée sur la santé publiée par un journal local au Sénégal.
En effet, dans un article paru dans son édition du 21 mai 2021, le journal Wolf Quotidien a indiqué que 80% des patients qui sont admis au centre hospitalier universitaire de Fann à Dakar le sont pour des AVC. Et on peut encore lire dans cet article que les AVC sont responsables de 90% des décès enregistrés parmi ces malades hospitalisés dans cette structure.
Et quelles sources alors ont été citées par cet article?
Eh bien, dans l'article, il est indiqué que ce chiffre provient de données rendues publiques en 2019, mais l'article ne précise pas de quelles données il s'agit exactement, ni la structure qui les a publiées. Eh bien, en plus, l'auteur de l'article n'a pas été en mesure de nous fournir la source de ces données.
Bon, qu'est-ce que vous avez trouvé alors? Quelle est la part réelle des AVC dans les hospitalisations au CHU de Fann à Dakar?
Nous avons obtenu de la Direction générale des établissements de santé un fichier contenant des données sur les 20 principales causes d'hospitalisation au CHU de Fann sur les années 2018, 2019 et 2020. On a trouvé qu'en 2020, sur 20 995 personnes hospitalisées, 3 529, soit 16,84%, ont été hospitalisés pour cause d'AVC, soit la deuxième cause d'hospitalisation. Non, en 2019, l'hypertension artérielle était la première cause d'hospitalisation au CHU de Fann, et les AVC arrivaient en deuxième position, tout comme en 2018. Et puis on a fait le calcul et on s'est rendu compte qu'entre 2018 et 2020, les AVC ont représenté en moyenne 15% des hospitalisations au CHU de Fann.
Et qu'en est-il alors du chiffre des décès ?
À ce niveau, la dernière source fiable et disponible sur le sujet est l'annuaire des statistiques sanitaires et sociales publié en octobre 2020. Et cet annuaire montre qu'au CHU de Fann, les accidents vasculaires cérébraux occupent le premier rang des causes de décès. Sur 584 personnes décédées, 94 l'ont été pour AVC et plus 25 pour AVC hémorragique. Donc tout ça, ce sont des AVC, donc ce qui fait globalement un taux de 20,38%, mais non pas de 90%.
Bien, merci pour ces précisions. Je rappelle à nos auditeurs que l'article est à lire sur votre site africacheck.org/FR. Merci Valdez Onanina en direct de Dakar.
Vérification faite.
Merci François.
C'est la fin des Dessous de l'Infox. Attaché de production Florence Pons, documentation Déborah Lepage, réalisation Hélène Avril. Merci à tous de rester fidèles à cette émission dont vous pouvez retrouver le podcast sur notre site internet ainsi que toutes les éditions bien sûr des Dessous de l'Infox produites ces trois dernières années. En attendant de vous retrouver à l'écoute de l'émission,
François Bernard
vous dit bonsoir et à vendredi prochain.
RFI parle au monde en français, mais aussi en 15 autres langues.
Écoutez RFI en mandinkan.
Dongodo, awi anga kubol dalewun lame, mande kana, nege kanye segi na tanfla mande dugu watila. Kuna founi nunu nye sinembe, mande dugu dema.
Écoutez RFI en mandinkan à Bamako sur 98.5 FM et sur ma.rfi.fr. Géopolitique, le débat.